Il est 5h30 à Paris, même heure à Maputo, et vous écoutez Radio France Internationale.
Édouard Dupénouat.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, soyez les bienvenus. Le Mozambique est à la une de cette première édition africaine de ce 9 octobre. Triples élections ce mercredi, dont la présidentielle. Les observateurs s'attendent à une configuration un peu inédite, loin en tout cas du duel Frelimo-Renamo qui rythme les dernières décennies politiques. Madagascar a trouvé ses candidats. La CENI publie la liste définitive des postulants aux municipales du mois de décembre. Colère des autorités du Cameroun, le président Paul Biya vaque à ses occupations. Il rentrera au pays dans quelques jours, dit le gouvernement. Yaoundé qui dément avec vigueur les rumeurs sur la santé du chef de l'État. La suite à Paris du procès de Charles Onana après une série de passages très controversés dans l'un de ses ouvrages. Il est accusé de nier l'existence d'un crime de génocide, celui contre les Tutsis en 1994. Et puis le foot aussi dans ce journal, puisque les éliminatoires de la CAN 2025 reprennent aujourd'hui. Qui est en forme? Qui, au contraire, court déjà un sérieux risque? Cédric de Oliveira est avec nous dans une dizaine de minutes. 17 millions d'électeurs sont donc attendus dans les bureaux de vote, triple élection et des jeux plus ouverts que jamais. Le Mozambique se rend aux urnes aujourd'hui, présidentielle, législative et élection provinciale. Depuis son indépendance en 1975, le pays est très largement polarisé par deux forces distinctes. Le Frelimo d'une part, parti au pouvoir depuis cette date, et le Renamo d'autre part, ancienne rébellion armée. Pour la première fois, Gaël Lalex, d'autres forces pourraient donc venir perturber ce duel annoncé.
C'est à la surprise générale que le Frelimo a désigné Daniel Chapo comme candidat. Cet ancien présentateur télé de 47 ans, né après l'indépendance, n'a pas combattu lors de la guerre civile de 75 à 92, ni occupé de place majeure dans l'appareil du parti. Certains y voient le choix du renouveau, d'autres une marionnette manipulable par les éléphants du Frelimo. Face à lui, Ossoufo Momade, 63 ans, ancien général de la Renamo, et Lutero Simangu du mouvement démocratique du Mozambique, troisième force politique du pays. Mais la vraie menace pour Daniel Chapo reste le candidat indépendant Venancio Mondlane. Cet ancien de la Renamo jouit d'une grande popularité auprès de la jeunesse mozambicaine. Il est aussi soutenu par le parti Podemos, composé d'anciens déçus du Frelimo. Son élection à la mairie de Maputo lui a été volée l'année dernière par les institutions électorales, selon Borges Namiré, chercheur pour l'Institut des études de sécurité. La transparence sera l'un des grands enjeux de ces élections. 12 000 observateurs nationaux et internationaux ont été accrédités. Ossoufo Momade prévient, nous voulons des élections justes. Dans ce cas seulement, il n'y aura pas de conflit. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Notre correspondante régionale qui signe des explications plus longues et plus complètes à lire sur notre site internet rfi.fr et sur notre application mobile. Processus électoral un peu plus lointain à Madagascar. On parle des élections législatives du 11 décembre prochain, des élections municipales, pardon. Après bien des péripéties, la commission électorale a dévoilé hier soir tard la liste définitive des candidats aux quasi 1700 communes que compte la Grande Île. Il n'y a plus aucun recours possible après un recrutement de candidats plutôt laborieux, Sarah Teto.
Cette étape marque un jalon crucial dans le processus électoral, s'est félicité hier soir la CENI par l'intermédiaire de sa directrice de communication, Tiananansu Ratimanges.
La CENI tient à constater l'atteinte d'une couverture électorale totale, c'est-à-dire que les 1695 communes de Madagascar ont toutes enregistré des listes de candidats.
Une situation loin d'être gagnée d'avance. Le faible engouement des concurrents avait en effet poussé l'organe en charge de l'organisation des élections à rallonger la durée de dépôt de candidature et le gouvernement a alléger la liste des pièces à fournir. De fait, certaines statistiques parlent d'elles-mêmes.
512 localités présentent des listes à leurs citoyens et 81 communes ont enregistré une liste.
Dans la capitale, ils seront 7 candidats à s'affronter. Le régime a finalement choisi de présenter la fraîchement nommée PDS, Ariel Ramanansu, en face d'elle plusieurs fils d'eux, à commencer par Tudj Ravalumanan, qui a dû remplacer son père au pied levé après que la candidature de ce dernier a été rejetée. Le parti présidentiel Irmar a réussi à présenter un candidat dans quasiment chacune des 1695 communes. C'est aujourd'hui qu'aura lieu le tirage au sort qui établira l'ordre des candidats sur les bulletins uniques. La campagne électorale, elle, est prévue le 19 novembre prochain. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Petit tremblement de terre politique au Kenya puisque les députés ont voté hier soir la destitution du vice-président du pays, Rigathi Gachagua, et cela après une longue journée de débats. 11 motifs de destitution ont été retenus. La motion doit encore être soumise au Sénat. Eric Gachagua était en rupture avec le président William Ruto depuis plusieurs mois. Il dénonce, je cite, un complot politique ainsi que des accusations de pure propagande. La guerre continue de faire rage autour de la ville d'El Fasher dans l'ouest du Soudan et cela au mépris une fois de plus des règles internationales. Cette localité est la dernière du Darfour qui ne soit pas aux mains des forces de soutien rapide du général Emeti. Ils en pilonnent les environs ainsi que plusieurs quartiers résidentiels depuis environ un mois. Une vingtaine de civils encore ont été tués depuis le début de la semaine dans le bombardement d'un camp de déplacés des massacres de 2003, Ouda Ibrahim.
La mosquée du camp de réfugiés d'Abu Shouk a été visée ce lundi, faisant, selon le comité de coordination de ce camp, un lourd bilan de victimes civiles, 10 morts et un nombre indéfini de blessés. Le lendemain, mardi, 8 victimes sont dénombrées dans le bombardement du même camp, mais cette fois-ci, ils visent le marché d'Abu Shouk. Déjà fin septembre, le bilan suite à ces bombardements à Al-Fasher s'élevait à 48 personnes mortes en 2 jours. Les habitants de la ville d'El Fasher, 2 millions à l'origine, 800 000 aujourd'hui selon l'ONU, vivent dans des conditions humanitaires très compliquées. La ville est encerclée par les FSR depuis plusieurs mois. Avant cela, El Fasher est resté longtemps à l'abri de la guerre, ce qui a poussé des milliers de déplacés à s'y réfugier avant d'être obligés de nouveau à fuir. L'ONU a exprimé son extrême inquiétude. La crainte porte sur des probables exactions qui viseraient certaines ethnies, comme en 2003.
Ouda Ibrahim, le Trésor américain, fait savoir par ailleurs qu'il prend des sanctions contre Alkouni Hamdan Daglo, le frère du général Emeti. Les Américains l'accusent d'être l'un des financiers de cette guerre sanglante. Il aurait contribué à fournir des armes également aux miliciens janjaouides engagés aux côtés des forces de soutien rapide. L'émissaire du patron de l'ONU pour l'Afrique des Grands Lacs s'exprimait hier devant le Conseil de sécurité. Il l'exhorte à œuvrer à un accord de paix entre les protagonistes du conflit qui ensanglante l'Est de la République démocratique du Congo. Et cela après déjà le cessez-le-feu conclu ces derniers mois entre la RDC et la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. La situation dans la région des Grands Lacs et en particulier dans l'Est de la RDC reste alarmante, dit l'émissaire spécial d'Antonio Guterres, Huang Xia. Il souligne que le M23 poursuit son expansion territoriale et qu'il contrôle plus de territoires qu'il ne l'avait fait lors de sa dernière rébellion il y a une douzaine d'années. Le gouvernement et la présidence camerounaise font entendre leur colère et leur dénégation après les rumeurs sur la santé du chef de l'État. Les absences de Paul Biya à l'Assemblée générale de l'ONU et au sommet de la francophonie ont fait fleurir toutes sortes de bruits. Hier matin même, un média installé aux États-Unis annonçait que le dirigeant de 92 ans était décédé. Communiqué vigoureux hier soir, tandis que le cabinet de la présidence explique que Paul Biya, je cite, « vaque à ses occupations à Genève ». Ferme démenti aussi dans la voix du ministre du Travail, Grégoire Owona.
Les gens cherchent par divers moyens de tromper l'opinion en annonçant le décès du chef de l'État à des fins qu'ils savent. Et moi, j'estime tout simplement qu'ils doivent payer le prix fort en annonçant des mensonges aussi grossiers. Et je pense que dans nos institutions, il y a des mécanismes qui doivent permettre de poursuivre ce genre de personnes parce qu'on n'annonce pas le décès d'un chef d'État sans s'assurer de ce qui se passe, sans même avoir appris avant qu'il était malade. C'est une réaction, j'allais dire, de grosse déception par rapport à ces organes de presse qui veulent se faire prendre au sérieux. La justice, le droit, la législation prévoit des sanctions contre ceux qui diffusent des fausses nouvelles, ceux qui diffament, ceux qui veulent créer des troubles à l'ordre public. Vous savez vous-même que ça, c'est le genre de nouvelles qui peuvent créer n'importe quel désordre à l'ordre public. C'est ça que j'appelle payer le prix fort.
Le ministre Grégoire Owona, propos recueillis par Sidi Yansané, le gouvernement camerounais conclut son communiqué en annonçant enfin que Paul Biya rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours. Petit à petit, la nationalisation fait son nid. Le Burkina Faso entend bien reprendre la main encore davantage sur sa production industrielle d'or. Voilà notamment ce que l'on pouvait retenir des différentes prises de parole du capitaine Ibrahim Traoré dimanche sur la RTB. Le dirigeant de transition explique qu'il est en train de retirer des permis d'exploitation à plusieurs multinationales aurifères installées au Burkina. Et cela après avoir déjà fortement augmenté les redevances dont ces sociétés devaient s'acquitter. Alexis Bédu, l'objectif est clairement affiché.
La reprise en main du secteur se poursuit après la révision du code minier en juillet. Ibrahim Traoré, assez clair sur ses objectifs concernant les sociétés étrangères.
Je ne comprends pas pourquoi on sait exploiter l'or et qu'on doit donc laisser des multinationales venir exploiter notre or. Donc c'est dans ce sens que j'ai dit qu'il y a des permis qu'on est en train de retirer et qu'on va le faire nous-mêmes.
Pas plus de précisions sur les entreprises visées. Le géant britannique Endeavour, plus grand producteur d'Afrique de l'Ouest présent au Burkina avec son très prolifique projet Houndé, a plongé en bourse ce lundi. Hier, le minier australien West African Resources a lui prévenu avoir reçu l'assurance de la junte que son permis ne serait pas retiré, mais la pression sur les miniers reste très forte.
Pour être politique, c'est politique.
Thierry Vircoulon est chercheur associé à l'Institut français de relations internationales.
C'est contre-productif, mais comme ils sont dans un bras de fer financier, ils augmentent les taxes, etc. Au bout d'un moment, les gens qui dirigent les compagnies, ils auront fait leur compte, ils diront bah, si ça dépasse tant, c'est plus rentable. Si c'est plus rentable, on bloque et si on bloque, eh ben, le gouvernement les expulsera.
Une nationalisation du secteur à petits pas, notamment via la société de participation minière du Burkina, ressuscitée fin juillet après des années de mise en sommeil.
L'économie burkinabé, c'est aussi cet ordre de ne plus exporter d'amandes de karité, tout comme le Mali voisin. On en parle dans la chronique des matières premières dans une dizaine de minutes avec Marie-Pierre Olfan. Le tribunal correctionnel de Paris poursuit les audiences au procès de Charles Onana et de son éditeur, l'auteur franco-camerounais, jugé pour contestation de l'existence d'un crime de génocide, en l'occurrence celui perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1994. C'est un livre paru il y a 5 ans qui lui vaut de comparaître aujourd'hui. « Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise », c'est son titre. Plusieurs organisations civiles avaient porté plainte après la lecture de cet ouvrage. Alors Florence Maurice, sur quoi précisément porte le cœur de cette affaire ?
Au cœur de ce procès, une vingtaine d'extraits du livre de Charles Onana, jugé suffisamment problématique par les juges d'instruction pour justifier un procès. Dans ce livre, l'auteur franco-camerounais place entre guillemets le terme de génocide qu'il qualifie de dogme ou d'idéologie. Il accuse le FPR de Paul Kagame d'avoir en 1994 fait passer, je cite, sa guerre de conquête du pouvoir pour un génocide des Tutsis, fin de citation. Il avance enfin que la planification du génocide des Tutsis par le pouvoir Hutu serait une thèse conspirationniste, quand bien même cette planification a été plusieurs fois reconnue en justice. Pour maître Sabrina Goldman, avocate de la LICRA, l'une des parties civiles, ces propos relèvent d'un négationnisme assumé. Pour qu'il y ait génocide, il faut un plan concerté. Ce qu'il récuse, explique l'avocate. Charles Onana s'en défend. Face au juge lundi, il a expliqué avoir fait dans ce livre un travail de politologue. Il dénonce un procès d'intention et assure n'avoir jamais contesté l'existence du crime de génocide.
Florence Maurice, 6 rencontres internationales dès aujourd'hui. Pour un petit avant-goût de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN commencent à la mi-journée. RDC, Tanzanie, Algérie, Togo, Burkina, Burundi. Un derby d'Afrique australe d'abord pour ouvrir le bal. Namibie, Zimbabwe, ce sera à midi en temps universel. Cédric De Oliveira.
Il y a 12 groupes de 4 équipes dans ces éliminatoires et dans certains d'entre eux, la hiérarchie est déjà assez clairement établie. C'est le cas dans le groupe A, avec la Tunisie qui a déjà 2 victoires en poche avant de défier 2 fois les Comores en quelques jours. Si les Aigles de Carthage s'imposent, ils seront sûrs de terminer dans les 2 premières places et iront donc au Maroc en décembre 2025. Déjà qualifiés, les Lions de l'Atlas ont aussi 6 points avant leur double affrontement contre la Centrafrique, qui elle joue gros dans son duel à distance avec le Gabon. Les Panthères pourraient bien profiter de la semaine pour avancer les partenaires de Geoffrey Kondogbia. Pour l'instant, les 2 équipes ont 3 points en 2 journées. Dans le groupe C, l'Égypte compte elle aussi 6 points et elle est bien partie pour se qualifier avant 2 matchs contre la Mauritanie. Même chose pour l'Algérie qui va jouer 2 fois contre le Togo. L'Angola dans le groupe F avant 2 rencontres contre le Niger. Et puis le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, peut aborder sereinement sa double confrontation contre le Lesotho dans le groupe G. Enfin, la RDC, impeccable jusqu'à maintenant dans ses éliminatoires, pourrait faire un pas décisif vers la phase finale en cas de victoire contre la Tanzanie.
Toute l'actualité sportive, c'est aussi dans une heure. On en reparle bien sûr, ce sera avec Olivier Pron.
Afrique Matin sur RFI. Édouard Dupenoit.
3h44 TU, la suite du programme. D'ici 4h, on est avec les journalistes de La Première. L'épidémie de choléra qui appartient au passé à Mayotte. Les prix d'amendes de karité flambent, conséquence de l'interdiction d'exporter, prise ces derniers jours par le Mali et le Burkina, 2 très gros producteurs ouest-africains. Afrique Éco, dans le nord de la Centrafrique, comment les mines artisanales ont fait reverdir toute une économie. Dossier à suivre dans 5 minutes. Le reportage de la rédaction d'abord en Côte d'Ivoire. le pays qui a reçu ces derniers mois une statistique qui fait frissonner les défenseurs des droits des femmes. Entre septembre 2023 et juin 2024, le nombre de grossesses en milieu scolaire a explosé, 4600 cas, 26% de plus que l'année précédente. Derrière les chiffres, il y a autant d'histoires individuelles de très jeunes filles qui deviennent mères. Ça veut dire souvent arrêt brutal de la scolarité, parfois rejet par la famille, abandon aussi par le père de l'enfant. Il existe malgré tout des structures spécialisées qui prennent en charge ces très jeunes mamans pour leur offrir notamment l'opportunité d'un métier et de quoi subvenir à leurs besoins. Illustration Abdulaziz Diallo.
C'est en classe de 4e, à peine un mois après le début des cours, que Falène, alors âgée de 17 ans, tombe enceinte.
Quand il a contracté la grossesse, il m'a dit que c'est pas lui qui est parti chercher le père de mon enfant ailleurs. Donc moi, je n'ai plus rien dit, je ne suis plus rentrée en contact avec lui. Un beau jour, il me rappelle et me dit si c'est vraiment lui qui m'enceinte, que d'enlever la grossesse, parce que lui ne va pas s'occuper de ça. Maintenant, si je m'entête à garder la grossesse-là, lui se désengage dedans.
Déterminée, elle essaie de continuer ses études. Mais entre les difficultés de la grossesse, l'incompréhension de sa famille et les moqueries de ses camarades, elle est contrainte de quitter l'école. Pour subvenir aux besoins de son enfant, elle enchaîne les petits boulots. Quelques mois après la naissance de son fils, Falène rencontre l'ONG ProKids.
Il m'a appris à faire la coiffure après la formation. Ils nous ont remis une somme de 100 000 francs avec quelques matériels. J'ai pris ça et me suis débrouillée pendant 2 ans avec. En décembre, là, je vais ouvrir un nouveau coin. Je suis en train d'épargner encore de l'argent.
Comme Falène, environ 1000 jeunes filles mères à Abidjan et à l'intérieur du pays bénéficient du programme d'accompagnement de l'ONG ProKids, fondé en 2017. Cette initiative a valu à sa présidente, Traoré Aïcha, le prix national d'excellence. Son objectif principal, offrir une seconde chance à ces adolescentes qui quittent prématurément le système scolaire.
Tout commence chez nous avec la formation, la prise de conscience de cette deuxième chance. Une fois que cette étape est garantie, on va maintenant vers l'étape de financement ou de l'achat d'équipement. Donc c'est dépendamment du besoin de la fille. Nous, on va l'accompagner derrière sur la gestion de son commerce, comment il faut qu'elle épargne et voir ce qu'on peut apporter de plus à chaque fois.
Cette initiative est saluée par le sociologue Bini Kofi Roland, spécialiste des questions éducatives. Selon lui, il faut agir en amont pour résoudre le problème.
Il ne faut pas attendre que les grossesses surviennent. Il faut déjà associer à notre système éducatif les formations qualifiantes qui vont occuper ces filles-là et leur apprendre à gagner de l'argent.
Le gouvernement ivoirien a lancé en 2013 une vaste campagne de sensibilisation intitulée « Zéro grossesse à l'école en Côte d'Ivoire », ciblant à la fois les jeunes et leurs familles. L'Institut de formation et d'éducation féminine prend en charge notamment les jeunes filles déscolarisées. Abdulaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Un reportage que vous réécoutez quand vous le souhaitez sur notre application dédiée RFI Pure Radio. 5h48 à Paris, les titres. Et l'actualité internationale de ce 9 octobre, c'est le Liban d'abord, qui a de nouveau été la cible de bombardements israéliens. Après avoir lancé des ordres d'évacuer, les militaires ont visé les localités de Baalbek, de Tyr et les quartiers sud de Beyrouth, la capitale, des bastions du Hezbollah. Désormais, ils sont plus d'un million de Libanais à fuir ces tirs quasi quotidiens. Le Hezbollah qui, de son côté, annonce vouloir intensifier en représailles ses tirs de roquettes, notamment sur Haïfa, si Israël continue de bombarder le territoire. Le groupe, allié du Hamas, ajoute que ses combattants ont fait exploser une charge contre des soldats de l'ennemi qui tentaient d'entrer dans le village de Blida. Le Premier ministre israélien menace les Libanais de leur réserver le même sort qu'à Gaza, si le Hezbollah continue de trouver du soutien dans la population. Déclaration qualifiée de provocation par le ministre français des Affaires étrangères. Et puis aux États-Unis, la péninsule de la Floride qui se prépare à subir un nouvel ouragan. Après Hélène, c'est Milton qui menace cet état. Milton est passé en catégorie 5, catégorie maximale des pointes de vent attendues à 270 km/h. Il devrait toucher terre dans la nuit de mercredi à jeudi. Cela pourrait être la pire tempête à frapper cette péninsule floridienne en un siècle, selon le président Joe Biden. Le dossier de l'économie africaine prend un peu à rebours la question de l'orpaillage artisanal. Question que l'on traite bien souvent sous deux prismes, celui des circuits de l'économie informelle et des conditions de travail très dures des creuseurs. Il faut aussi interroger le sujet sous un autre angle, celui de ses vraies opportunités économiques. Le village de Zawa, dans le nord-ouest de la Centrafrique, en est un bon exemple. 70% des 18-40 ans vivent de cette exploitation minière. Et dans le sillage du sous-sol, ce sont des boutiques qui rouvrent, des hôtels, des magasins, bref, toute une économie qui refleurit. Dossier de notre correspondant Rolf Steph Domialeux.
Au cœur de ce chantier minier, il est difficile de voir le fond des puits. Les ouvriers descendent dans ces galeries souterraines d'environ 20 mètres avant de passer sous des blocs de roches de plusieurs tonnes. Ici, le grincement des machines, pelles ou épioches ne s'arrête jamais. Une centaine d'artisans miniers comme Zéphirin y travaillent du matin au soir pour subvenir aux besoins de leur famille.
On vend notre or aux collecteurs et aux coopératives locales. Certains acheteurs viennent de la capitale, d'autres des régions du pays. Ici, le prix du gramme d'or varie entre 30 000 et 35 000 francs CFA.
Une fois l'or extrait en quantité suffisante, les exploitants miniers vendent ce qu'ils ont extrait au bureau d'achat installé dans la ville de Zawa. Le trajet fait 15 km, mais nous avons mis une heure pour y arriver à cause du piteux état des routes.
Ces dernières années, cette route n'a pas été réhabilitée à cause de l'insécurité. À Zawa, la plupart des édifices publics ont été pillés au temps fort de la crise. Maintenant, la paix est revenue. On veut reconstruire notre ville grâce aux activités aurifères.
Aujourd'hui, à Zawa, presque tous les édifices publics ont fait peau neuve et les lieux de commerce poussent comme des champignons. Assis sur une chaise à l'entrée de son motel, Patrice Evoir Yandobé, président des coopératives locales, est déterminé à changer les choses.
J'ai construit ce motel il y a un an grâce aux activités minières. J'ai une vingtaine d'employés qui gagnent de quoi s'occuper dignement de leur famille. Je suis en train de construire un centre de santé, une école et une agence de voyage qui seront opérationnelles très bientôt. On ne doit pas tout attendre du gouvernement.
Ici, ce sont les exploitants miniers qui font vivre la ville. Comme beaucoup, Fernand possède plusieurs boutiques de commerce général.
Le travail de l'or m'a donné plusieurs opportunités. J'ai 3 boutiques spécialisées dans la vente des pièces détachées, des produits de première nécessité et la vente des panneaux solaires. Je possède également une compagnie de transport. Le travail de l'or est difficile, mais je gagne beaucoup d'argent que j'investis pour le développement de ma communauté.
Selon les autorités locales, 70% des habitants vivent des activités minières. Avec l'amélioration des conditions sécuritaires, le ministère des Mines facilite aujourd'hui la délivrance des permis d'exploitation aux coopératives locales. Rolf Steve Domialeux, de retour de Gaga, RFI.
Si le Mali et le Burkina Faso possèdent de l'or, eux aussi, ce n'est pas de lui qu'on parle dans la chronique des matières premières, mais plutôt de l'amende de karité. Bamako et Ouagadougou ont interdit à quelques jours d'intervalle d'exporter ces fruits très utilisés en cosmétique et dans l'agroalimentaire. Effet mécanique, offre beaucoup moins abondante, égale prix qui grimpe en flèche chez les autres producteurs. Conséquence dans la chronique de Marie-Pierre Olfan.
En quelques jours, la décision du Mali et du Burkina Faso a bouleversé la donne. Immédiatement, la demande s'est reportée sur d'autres producteurs, et en particulier sur le Bénin, le Togo et le Nigeria. L'effet est massif dans ces 3 pays côtiers, selon les analystes du bulletin agricole Nkalo, qui relèvent des niveaux de prix exceptionnels. C'est du jamais vu en 17 ans, confirme un industriel qui a pour l'instant choisi de puiser dans ses stocks plutôt que d'acheter. Au Bénin, les prix ont augmenté de 50% en 3 semaines, au Nigeria de 25% sur le dernier mois et de 100% depuis le mois de mai. Car avant même la décision des 2 pays de l'AES, les prix avaient été emportés dans une spirale spéculative. Une flambée qui a mis en difficulté certains transformateurs maliens et burkinabés qui ne pouvaient plus s'approvisionner. D'où la mesure prise par le Burkina Faso et le Mali pour officiellement soutenir la transformation locale. Mais le retour de bâton pourrait être rapide. Dans ces 2 pays, les usines ne peuvent en aucun cas transformer un énorme surplus de matières premières. Elles n'ont pas non plus la trésorerie pour acheter beaucoup plus qu'aujourd'hui et n'auraient pas les moyens de stocker le beurre de karité obtenu. Pour l'instant, faute de pouvoir être exporté ou traité rapidement sur place, les amendes s'accumulent et au Burkina Faso, leur prix a déjà baissé. Les grossistes accusent le coup, ils ne peuvent plus exporter et doivent se contenter d'un débouché local moins rémunérateur. À en croire un fin connaisseur de la filière, les risques d'une interdiction prolongée sont déjà écrits, avec pour commencer la fuite illégale d'amandes de karité aux frontières du Mali et du Burkina Faso pour être vendues plus cher ailleurs.
Marie-Pierre Olfan pour la chronique des matières premières. L'actualité à Mayotte et à La Réunion, juste avant le début de RFI Matin, dans 5 minutes avec les confrères du réseau La Première. Alex Léveillé, on parle d'abord de la situation sanitaire qui s'est considérablement améliorée dans le département 101. Bonjour.
Madame, monsieur, bonjour. L'épidémie de choléra est terminée à Mayotte, une affirmation faite par l'Agence régionale de santé. D'ailleurs, depuis le 12 juillet dernier, aucune personne n'a été contaminée sur l'île. Abderrahmane Saïd de Mayotte, la première.
Le plan Riposte mis en place par l'Agence régionale de santé de Mayotte en partenariat avec les autorités nationales et locales a permis d'épargner notre département de la propagation du choléra. Tous les cas suspects ont été rapidement pris en charge et soignés à l'hôpital. Les domiciles et lieux de vie des patients ont été rapidement désinfectés. Toutes les personnes contacts ont été vaccinées et traitées. D'autre part, 35 000 vaccinations préventives ont été réalisées dans les zones les plus vulnérables. Les rampes d'eau dans les secteurs stratégiques ont été maintenues et la sensibilisation des populations continue pour les mesures d'hygiène. L'État maintient un niveau élevé de surveillance au point d'entrée sur le territoire. Les autorités rappellent également que le respect des mesures de précaution, telles consommation d'eau potable, lavage régulier des mains et la gestion des excréments, demeure le moyen le plus efficace de se protéger contre la transmission des différentes maladies hydriques.
Abderrahmane Saïd de Mayotte, la première. Et la radiologie en crise structurelle à La Réunion. Les effectifs de radiologues fondent comme neige au soleil dans les cabinets libéraux. Les délais d'attente de rendez-vous en cabinet de ville s'allongent fortement. Et à l'hôpital, les difficultés sont encore plus marquées. Bruce Régent de Réunion, la première.
Quand c'est urgent, on s'arrange toujours pour pouvoir le prendre.
Mais il faut faire des journées à rallonge et avoir des patients qui le soient, vraiment. En 10 ans, la radiologue Raphaël Ouarot a vu les effectifs de médecins fondre dans les deux principaux cabinets libéraux de Saint-Denis. Moins 40%, elle constate une réaction des autorités sanitaires.
Mais pour former un médecin, c'est 12 ans, donc les répercussions pas avant 15 ans, c'est pas demain.
Il y aura d'autres départs à la retraite entre-temps.
L'hôpital est encore plus affecté, les praticiens y gèrent la pénurie d'imagerie.
Ils essaient quand ils peuvent s'en passer, de s'en passer. Mais dans certaines situations d'imagerie médicale reste indispensable au diagnostic.
Pour le soir et le week-end, le directeur du CHU, Lionel Calange, concède avoir recours à des spécialistes dans l'Hexagone.
C'est vrai qu'on travaille depuis des années avec une plateforme de télé-imagerie qui permet d'avoir une télé-interprétation des images à distance. On essaie de trouver des solutions pour l'avenir.
Pas assez rapide pour les grandes urgences, celle-là fâche les médecins hospitaliers. Plus de passages au bloc devraient être évités. Les collaborations publiques-privées, autre piste du CHU, existent déjà dans les moments de tension.
Ils vous donnent alors une ordonnance pour aller faire en ville.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue.
Tout à fait. Les patients sont dépités. Ils ont dépensé tellement d'énergie à avoir un examen qu'ils arrivent, ils sont à bout.
Autrement dit, aux patients identifiés à risque de cancer notamment et qui doivent bénéficier de dépistage, les mammographies sont parmi les examens pour lesquels l'attente a augmenté dangereusement. Dans le milieu médical, on appelle ça des pertes de chance.
Bruce Régent de Réunion, la première. Retrouver un travail en sortant de prison, pas toujours évident. Un forum d'insertion a eu lieu pour la première fois au sein du centre pénitentiaire de Domingo. 90 détenus ont passé des entretiens et certains ont des projets bien précis pour leur avenir.
Je suis ici pour chercher un travail, une meilleure information pour ma sortie. C'est très important pour être bien quand je veux sortir. Ça va me permettre de bien évoluer.
Vous voulez changer de vie aujourd'hui ?
Oui.
J'ai un projet de création d'entreprise et donc aujourd'hui j'ai rencontré la chambre des métiers. Je suis ancien chauffeur routier et le problème c'est qu'aujourd'hui étant en prison j'ai plus les formations qui me permettent de rouler à l'extérieur.
Moi personnellement avant d'entrer j'avais une formation en cuisine. Mais là comme je tenais du compte je voulais faire un projet en mobilité et partir en métropole et suite à ça et l'avenir va aller mieux je pense.
Des propos recueillis par Ophélie Maraval de Réunion la première et c'est la fin de cette édition. Excellente journée à tous.
Merci à vous aussi Alex L'Éveillé, quelques secondes encore pour remercier Laurent Hérault et Céline Pellarin respectivement à la réalisation et à la rédaction en chef de cette première demi-heure africaine. Pour passer un salut amical aussi à Ernest Mbalnawej, vous nous écoutez sur l'appli Pure Radio à Lubumbashi en RDC et vous nous avez écrit sur notre adresse afriquematin@rfi.fr. Et pour passer la parole enfin à Arnaud Pontus pour RFI Matin dans une minute. Bonjour Arnaud.
Bonjour Edouard.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Bonjour Ernest et bonjour à tous. RFI Matin jusqu'à 10h, heure de Paris avec Nathalie Amar et l'ensemble de la rédaction. Le Proche-Orient fait encore la une avec le Liban qui a été la cible de nouveaux bombardements israéliens et désormais plus d'un million de Libanais qui ont dû fuir les tirs quasi quotidiens. Les nouvelles menaces aussi de Benjamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien promet au Liban de devenir Gaza si le Hezbollah ne se rend pas.
Bonjour, c'est Juan Gomez. La RDC va-t-elle réintégrer le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ? Kinshasa a fait acte de candidature, mais une partie de la société civile et de l'opposition affirme que le pays ne remplit pas les conditions démocratiques pour siéger dans cette instance. Nous lançons le débat.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.